Europe 1. On de la raconte la suite de votre récit.
Une nouvelle race d'experts débarque à Gainesville. Les experts en criminologie du FBI. Ça aussi, paraît-il, c'est une science. Ils sont là parce que, de toute évidence, on a affaire à un serial killer. Et il est vrai que c'est un genre de tueur tout à fait particulier. Il a clairement la volonté de nous dicter ses règles. La scène de crime indique qu'il a tué de sang-froid, un pas sous l'emprise d'une folie. C'est un homme qui sait parfaitement orchestrer ses actions et qui sait parfaitement comment éviter d'être pris. Les criminologues pensent que c'est un homme fort, physiquement, que probablement il a une intelligence supérieure, qu'il se prend pour le centre du monde, pervers narcissique, donc, et que l'idée qu'il peut être arrêté, emprisonné à vie, ou pire, condamné à mort, ne l'affecte pas du tout. Il s'en fiche comme de l'an 40. Autant vous dire qu'à Gainesville, la parano est à son maximum. Le bureau de police reçoit des centaines d'appels. Des gens qui dénoncent leurs voisins, leurs collègues de travail. Il est bizarre, il est pas net. Et à chaque fois, faut vérifier. Ça prend un temps fou. Et pour l'instant, ça n'a débouché sur rien. Et puis le procureur, sous pression, organise une conférence de presse. Vous pouvez être certain d'une chose. Nous le chercherons sans relâche. Nous le trouverons et nous le traduirons devant la justice. Je vous remercie. Le lendemain, vous entendez le lendemain, dans la résidence universitaire Gaterwood, un étudiant et une étudiante sont aux abonnés absents. C'est l'un de leurs amis qui s'en inquiète. Il s'appelle Manuel Taboada et Tracy Pauls. Ils habitent tous les deux ici. On devait se voir, ils sont pas venus. Alors je suis allé frapper à la porte de leur appartement, ils répondent pas. S'il vous plaît, vous avez les clés des résidents. S'il vous plaît, ouvrez leur porte. J'ai un mauvais pressentiment. Le gardien de la résidence accepte. Ils montent tous les deux, ils ouvrent la porte. Et depuis le palier, ils voient que l'appartement est en désordre. Et par terre, dans l'entrée, ils voient un sac noir. Ils referment la porte et ils appellent la police. Quand les policiers arrivent sur place, ils ouvrent à nouveau la porte. Le sac noir dans l'entrée a disparu. Le gardien a bien fait d'attendre, parce que quand il a ouvert, il y avait donc quelqu'un dans l'appartement. Ils avancent, et dans le couloir, ils tombent sur le corps de Tracy Pauls, nu, sur le dos, les jambes écartées. Elle a reçu 3 coups de poignard dans le dos, et elle a des marques de ruban adhésif au poignet. Et elle a été violée, l'autopsie le confirmera. Son corps a visiblement été lavé. Les policiers continuent d'avancer dans l'appartement. Et ils trouvent Manuel Taboada sur son lit, dans sa chambre. Mort. Poignardé lui aussi. Au visage, au cou, à la poitrine, au bras et dans la jambe droite. Hé, regarde les plaies sur ses bras. Moi j'ai bien l'impression qu'il a lutté contre son agresseur. Et pourtant il m'a l'air sacrément costaud et musclé ce gars-là, hein. Pour le neutraliser, il a fallu une sacrée force. Le verrou de la baie vitrée a été fracturé à l'aide d'un tournevis. C'est par là que le tueur est entré. La manière dont la jeune Tracy Pauls a été tuée permet de rapprocher tout de suite ce meurtre des 3 autres. La nouveauté, c'est que l'une des victimes est un homme. Même si on peut penser qu'il a été tué parce qu'il était là, et que sans doute il n'était pas l'objectif. En tout cas, on en est à 5 victimes. Dans la foulée, certaines résidences étudiantes décident de fermer, temporairement, et d'autres recrutent des vigiles pour sécuriser les bâtiments 24 heures sur 24. Le jour même de la découverte des corps de Manuel et Tracy, une piste sous. Deux policiers repèrent deux types plutôt louches à l'orée d'un bois en périphérie de la ville. Un homme noir et un autre blanc. Haut les mains, le noir est arrêté, mais le blanc réussit à s'enfuir. Et les policiers découvrent qu'ils étaient tous les deux en train de marcher vers un campement de fortune, dans le bois. Un campement dans lequel ils trouvent des tentes et des sacs de vêtements. Et parmi tout ce fatras, des billets de banque tachés d'encre rouge. Ça te rappelle quelque chose? Le hold-up dans la banque l'autre jour. On nous avait signalé un homme noir et un blanc. Je pense que c'est eux. Et dans la foulée, le noir balance le nom de son copain en cavale. Mike Kennedy, inconnu au fichier. Est-ce que tout ça a quelque chose à voir avec notre tueur en série? On l'a cru, on l'a espéré. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ces deux-là n'ont rien à voir avec notre affaire. Alors on coffre celui qui a été arrêté pour le hold-up. Et puis c'est tout. De toute façon, ça vient de tomber. Pour les meurtres, on a enfin un suspect. Eddie Humphrey, 20 ans. De nombreux témoins nous ont signalé son comportement bizarre sur le campus. Et en plus, il habite la résidence Gatterwood, là où sont mortes les deux dernières victimes. Alors j'ai regardé le fichier, j'ai retrouvé la trace d'une agression de sa part contre sa grand-mère. Donc c'est un gars qui est violent. La décision est prise de l'interpeller illico. Et à l'occasion de son interrogatoire, on lui fait un prélèvement de salive, de cheveux et de sang. On est en 1990. Je vous l'ai dit, l'utilisation de l'ADN dans les enquêtes criminelles en est à ses tout débuts. Mais sur ce coup-là, eh bien, elle permet d'innocenter Ed Humphrey. Son ADN ne correspond pas aux empreintes relevées sur les victimes. Et voilà, on n'a plus de suspects. Pendant ce temps-là, le FBI active un fichier qui est assez génial. C'est un fichier qui permet de comparer les scènes de crime de Gainesville à d'autres crimes commis aux États-Unis. Bon, on a peut-être quelque chose. Un triple meurtre qui a été commis il y a 8 mois à Shreveport, en Louisiane, et qui n'a toujours pas été élucidé. Tu vas voir, j'ai le dossier, il y a plein d'éléments qui ressemblent à notre affaire, plein. Les victimes de ce triple meurtre commis en Louisiane sont toutes de la même famille. Les Grissom. Tom Grissom, 55 ans, sa fille Julie, 24 ans, et son petit-fils Sean, 8 ans. On les a retrouvés poignardés chez eux. Le grand-père et son petit-fils dans le salon, et Julie, nue au bord du lit, dans la même position exactement que Sonia Larson. Elle aussi avait des traces de ruban adhésif au poignet. Elle aussi a reçu 3 coups de couteau dans le dos. Et son tueur a nettoyé son corps pour effacer les traces. Il a même mis ses vêtements à la machine à laver. Et d'après le légiste, eh bien l'arme utilisée est un poignard de type Kabar, comme dans les 5 meurtres de Gainesville. Et dans cette affaire, personne n'a été arrêté. Mais on a un suspect, un certain Danny Rowling, 37 ans, originaire de Shreveport.
Malheureusement, il est en cavale. Il est en fuite depuis qu'il a tenté de tuer son propre père. On est à sa recherche, mais pour l'instant, je dois vous dire qu'on a fait chou blanc.
Et là, incroyable coup de chance. Le jour même, le dénommé Rowling se fait arrêter pour un hold-up dans une épicerie à Ocala, en Floride. Si ça se trouve, on vient d'arrêter le tueur en série qui a fait donc 8 victimes. En tout cas, il a le profil. Alors, voilà tout ce que j'ai réussi à rassembler à son sujet. Il a le sacré passé, un autre gars. D'abord, il a été inculpé pour des faits de voyeurisme quand il était adolescent. Plus tard, il a été condamné pour agression sexuelle, vol par effraction et pour une série de hold-up à main armée. C'est un braqueur, tu dis? Oui. Oui, il a sévi en Géorgie, dans l'Alabama et dans le Mississippi. Un braqueur. Tu te souviens du braqueur qu'on avait arrêté dans le campement sauvage, là, après les premiers meurtres? Le gars nous avait dit que son complice qui s'était enfui s'appelait Mike Kennedy. Mais c'était peut-être pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était peut-être Raleigh. On a gardé les affaires qu'on avait saisies dans le campement? Ouais, je crois. On ouvre les boîtes dans lesquelles sont stockés les objets saisis dans le campement de fortune du bois de Gainesville. Et on s'aperçoit que dans le tas, il y a un magnétophone. Et il y a une cassette audio. Et figurez-vous que dessus, Rowling a enregistré une sorte de confession. Vous savez, je sais que je vais passer ma vie en cavale, mais je me débrouille de mieux en mieux. Ne soyez pas désolé pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je suis un grand garçon. Je m'en sortirai. Eh bien, on va aller l'interroger, le grand garçon, puisqu'il vient de se faire arrêter pour avoir braqué une épicerie. Ça sent bon, hein, parce qu'on ne passe pas sa vie en cavale, comme il dit, pour être parti avec la caisse d'une supérette. Il a autre chose sur la conscience, ce type. Et avec un peu de chance. Les agents spéciaux de la police de Floride débarquent à la prison fédérale de Mariana, où ce Danny Rowling est détenu pour le braquage de l'épicerie. Je vous le redis, je ne suis pour rien dans tous ces meurtres. D'accord. Puisque vous le dites, vous accepteriez qu'on vous fasse une prise de sang? Oui. Pourquoi pas? Il n'a pas assez regardé les experts à Miami, Monsieur Rowling. Il ne sait pas que dans le sang, il y a de l'ADN. Et que si on compare son ADN à celui retrouvé sur les scènes de crime, eh bien on va découvrir que c'est lui. C'est lui qui a tué Sonia, Christina, Krista, Manuel, Tracy, Tom, Julie et Sean. Aucun doute là-dessus. L'ADN ne peut pas mentir. Dès le premier interrogatoire, ça se confirme. Le type est un immense pervers. J'ai rien contre le fait de vous parler. Mais je ne le ferai pas directement. J'ai tout raconté au gars qui est en cellule avec moi. Il s'appelle Lewis. C'est lui qui vous racontera. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, monsieur Rowling. C'est comme ça que ça va se passer. C'est à prendre ou à laisser. C'est fascinant de voir à quel point ce type est un manipulateur. Il impose sa loi. Et les policiers disent oui, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et donc le copain avoue à sa place les 8 meurtres. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Son mobile. Eh bien, il m'a dit qu'il voulait devenir aussi célèbre que le tueur en série Ted Bundy. Et que c'est pour ça qu'il avait commis ces 8 meurtres. Est-ce qu'il reconnaît aussi les meurtres de Shreveport, en Louisiane? Oui, il m'en a parlé. C'est lui qui les a tués. Il a tué un vieil homme et un petit enfant. Pourquoi? D'après ce qu'il m'a dit, c'était pour atteindre le chiffre de 8 victimes. Et pourquoi 8? Eh bien, une victime par année. Par année qu'il a passé en prison. C'était ça son but. Un pervers narcissique, psychopathe, pur jus, pur sucre. Danny Rowling a décidé de plaider coupable. Et donc au procès, on ne rentre pas dans les détails de chacun des crimes. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Mais lui profite du procès pour se faire reluire, pour construire son propre mythe de tueur en série star. Et quand on lui demande pourquoi il est devenu comme ça, mon père me battait. Et c'est ça qui m'a poussé à devenir un tueur en série. Et ma mère, elle a laissé faire. Et c'est pour ça que je tue de préférence les femmes. pour lui régler son compte à ma mère. À la fin du procès, Rowling se tourne vers les familles de ses 8 victimes. Je voulais vous dire, je regrette de tout mon cœur ce que mes mains ont fait. Ses mains, pas lui. Le 20 avril 1994, Danny Rowling est condamné à mort. Il sera exécuté par injection létale. À l'annonce du verdict, il se lève et il se met à chanter. I love you, darling. I love you so much, so much, so much. Et vous savez pour qui il chante? Pour sa fiancée qui est dans la salle. Elle s'appelle Sandra London. Et elle est écrivaine, figurez-vous, auteure de romans policiers. Elle s'est entichée de lui après avoir quitté son chéri précédent qui s'appelle Gérard Schaeffer, un autre tueur en série, à qui on prête 30 victimes. Sacrée tordue, elle aussi. Danny Rowling passe 12 années dans le couloir de la mort. Il est exécuté par injection létale le 25 octobre 2006. Et au moment où on lui injecte le produit mortel, eh bien encore une fois, il se met à chanter un hymne évangélique dont il a écrit lui-même les paroles. Jusqu'au bout, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Il est déclaré mort à 18h13.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.